Mola, archive sonore.
Figurez-vous que je faisais une conférence, et j'en fais plus parce que je les refuse, de façon systématique, mais là encore, je me suis laissé aller par l'amitié, voir par l'amitié. J'ai fait une conférence à Nice il y a 3 semaines, et emporté par mon ardeur, il y avait des diapositives qui passaient sur le... Je regarde. Sur le mur derrière, on avait fait l'obscurité, et il y avait entre l'estrade, qui était plus haute, beaucoup plus haute que celle sur laquelle je suis perché, et le mur qui était derrière moi, il y avait un grand trou. Alors, emporté par mon discours et par les diapositives, je me suis cassé la figure, en arrière, je suis tombé sur les reins, je me suis cassé la vertèbre, la troisième vertèbre lombaire, je me suis pincé les... entre L4, L5 et L5 et la première sacrée, et j'ai mal au dos. Je préfère tenir debout d'ailleurs qu'assis, parce que debout, moi, c'est plus, ça s'appuie normalement. Plus lent. Voilà, très bien, je vous remercie. Comment ? Oui, on est beaucoup mieux là, ça se... Et puis, ça est beaucoup plus show business. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Je crois que la chose qui me semble la plus importante à dire dès le départ, c'est une idée qui, c'est une notion qui a orienté toute ma vie journalière, quotidienne, et qui a orienté tout mon travail scientifique, si tant est que j'ai travaillé scientifiquement, ça c'est aux autres de le dire, depuis 30 ou 40 ans. C'est une notion de niveau d'organisation. Il fut une époque où, entre Sabatier qui est là, m'a bien connu cette époque-là, où nos laboratoires, j'avais commencé à introduire les notions de cybernétique en biologie, en physiologie. Je vais m'écrire en 60 un traité de physiologie qui commençait par un chapitre de cybernétique. C'est très mal vu, vu que je sais que j'ai dit soit un bouquin de physiologie sérieux. Ça commence par le sang. Et alors là, le malheureux étudiant qui étudie la physiologie commence par s'envoyer 13 facteurs de la coagulation du sang qu'elle ne comprend absolument rien. Mon bouquin de physiologie était bâti sur une notion différente. J'expliquais ce que c'était, je vais dire en deux mots, ce que c'était qu'un système régulé, un cerveau mécanisme. Et par niveau d'organisation, je commençais par de la physique biologique, la chimie biologique, les deux étant forcément liés. Et puis ensuite, je passais aux hormones, aux cellules, aux organes, aux systèmes, pour arriver à l'organisme entier. Et vous avez là un certain nombre déjà de niveaux d'organisation. On peut... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, d'accord, je viens à droite. Ce qu'il faut bien comprendre, et quand on a compris ça, je pense qu'on a fait un très grand progrès dans sa vie journalière, c'est que l'homme ne peut comprendre, atteindre que des ensembles. Et un ensemble, on le représente par un rond. Un ensemble, ça contient des éléments. On les représente, ces éléments, par des petits ronds. Mais ces éléments ne sont pas placés au hasard et ils entretiennent entre eux des relations. Alors on représente ces relations par des flèches. Or, l'ensemble des relations entre les éléments d'un ensemble, j'appelais ça la structure de cet ensemble. C'est au fond ce qui conditionne sa forme. C'est ce que l'ensemble ajoute à la somme des éléments qu'il constitue. Or, l'homme est incapable de connaître la structure avec un grand S, c'est-à-dire l'ensemble des relations existantes entre les éléments d'un ensemble. Il ne peut connaître que ce qu'il abstrait de cet ensemble, de cette structure d'ensemble, c'est-à-dire une sous-structure, une structure avec un petit s. Or, aussi, il s'avère que Cette structure avec un petit S, il est persuadé qu'elle représente chacun de nous. Il est persuadé qu'elle représente la structure avec un grand S. En général, je dis que, pour me faire comprendre, si vous regardez un accident de la circulation, 10 personnes l'ont vu, objectivement, parce que tout est objectif. Chaque individu voit objectivement une chose. Nous sommes tous objectifs. Et on voit donc un océan de la circulation, 10 personnes l'ont observé objectivement, et 10 personnes vous le décriront différemment. Pour la bonne raison qu'elles ont de cet ensemble, accident de la circulation, elles ont abstrait un sous-ensemble, ceci commandé par leur expérience antérieure de la vie, leur enfance, on aura peut-être l'occasion d'en parler, la période de l'empreinte, tout ce qu'on a mis dans leur cerveau depuis leur naissance, c'est-à-dire leur jugement de valeur, leurs préjugés, etc., qui feront qu'ils jugeront, qu'ils abstrairont une sous-structure de l'ensemble des structures. Bien. Donc, méfiance. Or, ce que je viens de dire sur cet ensemble est applicable à des quantités de choses, à toutes les choses. Ces éléments qui sont, je répète, qui ne sont pas placés au hasard. Ça peut être des particules élémentaires dans un atome. Ça peut être des atomes dans une molécule. Ça peut être des molécules dans des ensembles, dans des organites intracellulaires, dans des réactions enzymatiques. Les organites intracellulaires, les mitochondries, les noyaux, les membranes, les organoplasmes, etc. Ça peut être ces organismes intracellulaires dans une cellule, et ces éléments peuvent représenter des cellules dans un organe, le foie, l'intestin, la thyroïde. Ça peut être aussi des organes dans des systèmes. Système digestif, système cardiovasculaire, tout se fait d'organes différents. Système nerveux. Et ces ronds peuvent représenter aussi des systèmes qui, en se réunissant, constitueront un organisme. Mais vous n'arrêtez pas là. Ces organismes, ces ronds peuvent représenter les éléments, c'est-à-dire des organismes, dans un groupe social, familial, professionnel, syndical, confessionnel. Ça peut être des réunions. Ils peuvent représenter des groupes sociaux dans des ensembles plus importants, régionaux, étatiques. Ça peut même être représenter des États dans des blocs d'États. Et je vous ai passé là en revue quelques-uns, pas tous, quelques-uns des niveaux d'organisation que l'homme peut approcher. Il peut même continuer ces niveaux d'organisation. Vous les trouverez même dans la... J'ai écrit tout un livre qu'on m'a fait signer gentiment tout à l'heure, d'ailleurs, qui s'appelle « Dieu ne joue pas au dé » et que les physiciens ont considéré que je n'avais pas dit de bêtises sur une physique des particules relativiste et des planckiennes, dirais-je, quantiques, et une astrophysique où les documents que j'accumulais depuis de nombreuses années, dans Science, Nature, enfin tout ce qu'on voudra, se commençait à faire un mélange affreux dans mon cerveau. Je me suis dit, un beau jour, il faut quand même que je mette de l'ordre là-dedans, je n'y comprends plus rien. Et j'ai passé 2 ans à réunir, soit dans le domaine de la physique des particules, soit dans l'astrophysique, ce que j'avais pu collecter. Et en plus, j'ai ajouté et j'ai situé au milieu de tout ça ce que je savais de façon un peu plus précise, à savoir la biologie dans son ensemble, et la biologie du système nerveux central en particulier. Il se trouve que les physiciens ont dit que je n'avais pas dit de bêtises, les gens difficiles souvent, je n'avais pas dit de bêtises, j'avais sans doute même eu un bon professeur de physique. Bon, je n'ai jamais eu de professeur de physique, mais bon. Alors, Ces niveaux d'organisation, dis-je, vous pouvez les retrouver. Il y a le système planétaire, le système solaire, qui fait partie d'une galaxie avec quelques milliards d'étoiles et sans doute de planètes autour d'elle. On va le savoir assez rapidement maintenant. De galaxies qui vont se réunir en amas de galaxies, et ces amas de galaxies vont se réunir en super amas de galaxies. Vous trouvez des niveaux d'organisation partout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau d'organisation ? Deuxième chose à comprendre et importante, c'est un système régulé. Un système régulé, on le représente encore, vous savez, il y a beaucoup de ronds dans la représentation que l'homme se fait de ce qui l'environne. C'est un effecteur. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça fait quelque chose, ça a un effet. Mais pour avoir cet effet, il faut qu'il soit commandé par des facteurs, mettons qu'ils sont positifs. Or, un système régulé est fait de telle façon, fonctionne de telle façon que la valeur de l'effet va contrôler, généralement négativement, la valeur du facteur qui l'a produit. Un système comme ça, il est facile de comprendre que ça ne fait plus rien. Ça ne fait simplement que maintenir la valeur d'un effet autour d'une valeur moyenne, oscillante. C'est ce que fait un bain-marie. Bain-marie, c'est ce que c'est un espèce d'aquarium dans lequel il y a de l'eau, puis il y a une résistance chauffante dans cette eau. Il entre dans cette résistance une énergie potentielle, comme dans un organisme, avec les aliments, qui est l'électricité qui va se dégrader, suivant les caractéristiques de votre appareil, en chaleur, en énergie non plus potentielle, mais cinétique, en chaleur, en agitation moléculaire plus ou moins désordonnée. Bon, pour certains réglages de votre appareil, vous pourrez obtenir une température de votre eau à 37 degrés, par exemple. Elle ne sera jamais à 37 degrés centigrades. Mais elle sera soit à 36,5, mais à ce moment-là, l'appareil se remettra en marche, le courant repassera, il remontera à 37,5, là, le courant sera interrompu et vous retomberez à 36,5, etc. Et évidemment, il y a une valeur des variations qui dépendent des caractéristiques de votre appareillage. Si vous voulez avoir de l'eau à 37 degrés, tant mieux pour vous. Mais supposez que vous vouliez un appareil comme celui-là, un bain-marie, ça s'introduit dans un laboratoire au sein d'un certain nombre d'étapes de recherche. Et ça sert dans ces étapes variées. Et vous avez besoin quelquefois d'avoir de l'eau non plus à 37, mais à 12, ou à 15, ou à 60. Et alors qu'est-ce que vous faites ? Vous venez de l'extérieur, vous, de l'extérieur de votre système régulé, commander à une commande extérieure au système de la boucle rétroactive la valeur de l'effet. La valeur de l'effet, c'est-à-dire du fonctionnement de l'ensemble. Et ça devient, vous transformez votre régulateur en cerveau-mécanisme. Eh bien, je n'aurais pas perdu mon temps si vous n'étiez pas encore informé de ce que je suis en train de dire, cerveau-mécanisme. Si vous réalisez que tous les niveaux d'organisation dont je vous ai parlé, atomique, pour ne commencer que par lui, cellulaire, organique, systémique, puis des individus dans des groupes sociaux sont des cerveaux mécanismes, c'est-à-dire qu'ils sont commandés par le système qui les englobe. La cellule dépend de son rôle et de l'organe dans lequel elle est introduite, si bien que, qu'est-ce que fait le chercheur en général, et malheureusement, en général, il ne l'a pas compris, il l'ignore, il isole un niveau d'organisation. Le biochimiste, par exemple, isolera une réaction enzymatique in vitro, le substrat, l'enzyme, et puis le produit de la réaction, il étudiera cette réaction enzymatique, toutes ses caractéristiques,
Un autre biochimiste étudiera une cellule isolée, ou même en ayant broyé des tissus, comme nous faisons tous les jours, il les centrifugera et il recueillera au fond du tube ce qui est le plus lourd, des mitochondries par exemple, et puis il regardera, un appareil qu'on appelle le Warburg, comment respirent ces mitochondries, comment elles, qu'est-ce que la quantité d'oxygène qu'elles absorbent, de phosphore qu'elles absorbent pour faire ce qu'on appelle de l'ATP, etc. Bon, et de gaz carbonique qu'elles libèrent. Bien. Donc, un autre biochimiste, lui, regardera non plus, regardera la cellule isolée, donc culture de tissus, de cellules ou des tissus isolés. Le physiologiste commencera, lui, avec les organes, il isolera des cœurs, des intestins, des reins, et toujours en tube à essai, enfin dans l'appareillage, séparé de l'organisme auquel ils appartiennent, il verra comment il fonctionne. Le physiologiste regardera aussi, étudiera des systèmes cardiovasculaires, comme s'il était isolé du reste des autres systèmes cardiovasculaires, systèmes endocriniens, etc. Donc, ce que fait le spécialiste, c'est de couper la commande extérieure au système, c'est-à-dire séparer le niveau d'organisation qu'il étudie de celui qui l'englobe. Il ne peut pas faire autrement, et nous ne pouvons pas faire autrement, parce que là, j'ai montré deux facteurs, mais dans les systèmes vivants, les facteurs sont multiples. On parle en même temps même d'un attracteur étrange. Bon. Donc, ils sont multiples et on ne peut pas les connaître tous à la fois. Donc, pour savoir le rôle qu'ils jouent dans un niveau d'un système régulé, on fait varier la valeur d'un seul facteur et on regarde ce que ça produit sur la valeur de l'effet. Mais c'est donc indispensable pour connaître le fonctionnement isolé d'un niveau d'organisation. Mais si vous replacez ce niveau d'organisation, mitochondries, cellules, organes, etc., dans l'ensemble qui l'englobe, ça ne fonctionnera pas du tout comme ça. Parce que vous avez oublié des facteurs. Il faudra que sans arrêt que vous reveniez au niveau d'organisation, puis que vous le replaciez, etc. Et donc, c'est ça qui rend la difficulté de la recherche, qui fait la difficulté de la recherche en général. Et surtout, ce qui rend difficile, c'est l'ignorance, bien souvent, la notion de niveau d'organisation par les expérimentateurs eux-mêmes, qui sont persuadés que quand ils connaissent toute la mitochondrie ou toute la cellule ou tout de l'organe, ils connaissent tout l'individu et la société dans laquelle il est placé. Bon. Je pense que, personnellement, quand j'ai compris ça, il y a une quarantaine d'années, ça doit être de 54 ou 55, 1954, pas 1800, non, ça a éclairé toute ma recherche et d'abord aussi tout mon comportement par rapport aux gens, aux groupes, aux individus qui m'entourent. Je me suis aperçu que je ne détenais pas la vérité, mais que eux non plus, donc ils n'avaient jamais à m'imposer une vérité, quelle qu'elle soit, et que je n'avais pas à l'accepter. Donc, ça permet de réagir souvent au dogmatisme qui est celui des gens qui sont persuadés que ce qu'ils connaissent à leur propre niveau d'organisation et couvre tous les niveaux d'organisation. Surtout quand vous rentrez dans les sciences dites humaines, psychologie, sociologie, économie, politique, pour ne citer qu'elles, ces sciences humaines, Lévi-Strauss dit qu'elles ne sont pas des sciences, je ne serais pas éloigné de croire d'ailleurs, ces sciences humaines, elles se font, elles expriment la relation d'individus entre eux. Et ces relations, elles se font avec quoi? Avec un système nerveux, un cerveau en particulier. Or, en fait, jusqu'ici, ce système nerveux, ce cerveau, n'a jamais pris en compte. C'était trop compliqué, on ne savait pas. Il y a 40 ans qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne dans notre crâne. Et jusque-là, on utilisait des mots pour exprimer tout ce que vous voudrez, la haine, l'espoir, l'imagination, la créativité, tout des mots. Et avec ça, alors, liberté, égalité, fraternité, démocratie, tout ce que vous voulez, qui étaient des sous-ensembles extrêmement étroits, d'abstraits d'ensembles qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, d'ailleurs, mais pour lesquels on peut essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et cet instrument étonnant d'un cerveau humain n'a jamais été, je crois que je suis l'un des premiers, c'est peut-être la seule chose pour moi qui m'a aidé, qui m'a fait plaisir, parce que j'ai mieux compris les autres. À partir du moment où je suis mieux compris, j'ai mieux compris les autres. Et les relations sociales se transforment complètement. Malheureusement, nous sommes 5 milliards d'hommes, mais ces notions, elles n'entrent pas facilement. Là, actuellement, l'éducation, comme on a eu la formation, c'est la formation, et puis l'éducation, non, on travaille sur la formation. La formation, c'est la formation de producteurs, le plus tôt possible, le plus rentable, avec quelques notions abstraites de mathématiques et de physique, d'informatique, de tout ce qu'on aurait tout quantique, qui permettent de faire des robots qui font beaucoup de marchandises en peu de temps et qu'on peut exporter. Donc toute la compétition, tout le comportement humain sur cette planète de 5 milliards d'hommes est basé sur une compétition économique, une foire d'empoigne, et je ne vois pas comment, si on ne dit pas pourquoi, cette... cours des siècles, depuis le début du néolithique, parce qu'elle n'a pas toujours été là. Il faut reconnaître que ça date du début du mésolithique, de la fin de la dernière glaciation, 10 000 ans, 10-12 000 ans, mais surtout à partir du néolithique, 6 000 ans, à partir du moment où l'homme s'est fixé au sol, a inventé l'agriculture et l'élevage, et qu'il a découvert la notion de propriété. J'ai fait, il y a quelques années, la préface d'un livre d'un paléontologiste qui travaillait dans le Périgord à l'époque et qui a développé ce qu'il avait trouvé sur le terrain, ce que je vais dire, à savoir que il fut une époque, cette évolution humaine, cette fixation au sol qui a permis aux hommes, à une certaine époque, il y a 6000 ans, grosso modo, quoi, de ne plus qu'un, quand le climat est devenu tempéré, c'est-à-dire que la fin de la dernière glaciation, on a trouvé des hivers et des étés. L'été, c'est agréable de vivre. L'hiver, on retrouve la famine, il faut aller à la chasse, ça devient difficile. C'est pas drôle. Et à partir du moment où il a découvert l'agriculture et l'élevage, il a pu faire des stocks de marchandises, de nourriture. Il a eu du bétail sur pied. En passant, d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, quand on parle de l'agressivité innée des animaux et de l'homme, puisque l'homme est un animal, on ne voit pas comment il y aurait eu des animaux domestiques si cette notion était vraie. Il suffit d'être gentil et de donner à un animal jeune, dès la naissance, de lui donner le moyen de vivre, et de vivre de façon agréable, pour qu'il devienne un animal domestique. On a fait quand même le bon toutou à sa mémère grâce au loup, bon, au chacal, etc. Bon, la parenthèse est enfermée. Les hommes se sont trouvés donc avec des réserves de grains nécessaires à leur plaisir, à l'équilibre biologique, à l'homéostasie, comme aurait dit Cannon. Plaisir, c'est une notion de plaisir, c'est la même chose, d'ailleurs, c'est Freud. Et il attendait, à partir de ce moment-là, il a attendu au coin du feu, les pieds au coin du feu, que l'hiver disparaisse, s'arrête. Pour recommencer et refaire de l'agriculture et de l'élevage pour l'année suivante. Il faut avouer que ça a changé complètement son existence. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que ce qu'on a l'habitude d'appeler la science, en faire la science, c'est l'homme. Dès le début, à partir du moment où un homme a vu qu'un mammouth était plus gros que lui et pesait plus lourd, mais il a couru parce qu'il a eu peur, il est tombé, il s'est fait une entaille dans le genou, il s'est rendu compte que le silex était plus dur que son genou. Alors il a commencé à tailler le silex de mieux en mieux, ça durait 2 millions d'années, puis il l'a branché dans un bout de bois, puis il est parti à la chasse. Donc il a fait une hypothèse de travail qu'aucun animal n'a faite, parce que aucun animal, notre cerveau orbitofrontal, notre cerveau associatif, capable justement d'associer des expériences passées, c'est-à-dire le codage de certaines voies nerveuses de façon originale, différente de celles que nous impose le milieu extérieur. Et après cette hypothèse de travail, de passer à l'expérimentation, voir si ça marchait. Il s'est aperçu qu'il se défendait mieux avec des outils, avec des armes, qu'il se défendait mieux, qu'il défendait mieux sa vie et qu'il trouvait mieux son plaisir, maintenait mieux son plaisir, c'est-à-dire son alimentation et sa défense. Mais tout le monde n'est pas arrivé à ce stade de si vite. Et le paléontologue dont je parlais tout à l'heure, travaillant dans le Périgord, a vu, avec une datation précise, au carbone 14, alors que maintenant ça se discute, mais enfin, je n'entre pas dans les détails, mais avec une stratigraphie très, très précise aussi. À peu près à la même époque, avec sans doute un écart de 20 à 30 ans grand maximum d'erreurs possibles, des gens qui étaient encore à la porte de leur caverne, enfin dans leur caverne d'hiver, qui se resserraient la ceinture et vraiment étaient malheureux comme des hommes préhistoriques du paléolithique qu'ils étaient encore, quand on revenait l'hiver, et puis d'autres qui, à 30 km, exactement 30 km, avaient inventé l'agriculture et l'élevage, attendaient que ça se passe, que l'hiver se passe. Alors les premiers ont été trouvés les seconds, puis on dit, ben, on voudrait bien en profiter. Elle dit non, les autres ont dit, c'est à nous. Et il n'y a pas d'instinct de propriété, il n'y a pas de région dans le cerveau. Vous avez l'instinct de propriété, que vous chatouillez, il y aura un instinct de propriété. C'est absolument ridicule et idiot de dire ça. Il y a simplement l'apprentissage, c'est-à-dire un phénomène de mémoire. Mémoire qui n'est pas simplement quelque chose. La mémoire, ça se pèse. La mémoire, ce sont des molécules qui naissent au moment d'une expérience, lorsque votre système nerveux est mis en jeu par ce que vous apprenez, enfin, ce qui se passe dans l'environnement. Donc, les phénomènes de mémoire, ça se pèse parce que ces molécules, on les pèse. C'est pour ça que je dis que ça se pèse. Mais d'ailleurs, ça ne vous étonne pas quand on parle de mémoire. Il y a bien longtemps que vous savez que quand un microbe pénètre votre organisme, vous allez synthétiser des molécules, ne serait-ce que les anticorps protéiques, et que quand vous le retrouverez, vous ferez la seule affaire au microbe. Vous ne laisserez pas avoir par ce microbe. On attrape la typhoïde une fois, on n'attrape pas deux fois. C'est une mémoire, et c'est la même mémoire. On sait, il y a 20 ans que je le dis, mais maintenant, c'est devenu une certitude. Il y a même une spécialité qui est la neuro-immunomodulation, qui montre que la mémoire immunitaire, c'est exactement le même principe que la mémoire nerveuse, et qu'elles fonctionnent ensemble, que le cerveau joue, commande la mémoire immunitaire, que la mémoire immunitaire, que le système immunitaire libère des hormones qui vont influencer le cerveau. Donc c'est encore un mouvement cybernétique. Mais là encore, et ça c'est une de mes grandes discussions avec Célier, qui est un ami que je voyais souvent quand je s'enseignais à Montréal, qui était un endocrinologiste, et il disait, je me souviens il y a très longtemps même, il y a 54-55, quand j'ai commencé à parler de cybernétique, je me souviens d'un jour où Célier me dit, enfin là, Boris, je vous aime bien, j'ai fait des choses intéressantes, déjà, vous enfoncez des portes ouvertes. Nous, endocrinologistes, on sait bien que quand à ce moment-là, on ne connaissait pas encore ce qu'on appelle le CRF maintenant, le travail de l'hypothalamus, mais nous, on sait très bien que quand l'hypophyse libère de la CTH, ça stimule la sécrétion par la corticosurrénale de cortisone, chez l'homme, du corticosurone chez le rat, et que cette cortisone va empêcher, bloquer la libération d'ACTH, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, votre système, votre cybernétique, hein, bon. Et j'ai essayé de faire comprendre, mais endocrinologie, je ne s'intéressais pas beaucoup, même pas, au système nerveux, lui faire comprendre que ce système qui était incapable de faire quoi que ce soit était commandé par un système nerveux qui était au-dessus, et que ce système nerveux commandait le système endocrinien. Et que ce système nerveux, il était commandé par le rapport de l'individu, de ce système nerveux, avec son ensemble social. Ce qui m'a amené, aux environs de 68 et 70, à parler, à découvrir la notion d'inhibition de l'action. En fait, toute la pathologie, celle qui n'est pas génétique, bien sûr, quand vous montez un gène, il vaut mieux en récupérer, si on peut vous le donner, comme on commence à le faire. Mais toute la pathologie est une pathologie d'inhibition de l'action. Pourquoi ? Parce que quand vous ne pouvez pas contrôler votre environnement, au mieux de votre intérêt, bien sûr, c'est-à-dire votre plaisir, de votre équilibre biologique, vous faites fonctionner des aires que j'ai précisées, que j'appelle le système inhibiteur de l'action. Les anglo-saxons, maintenant, l'appellent le Behavioral Inhibitory System. Alors, moi, j'ai appelé le SIA. Eux l'appellent le BIS, ça change tout puisque c'est en anglais. Alors on peut les croire, eux, tandis que en français, c'est plus léger. Donc, ce système inhibiteur de l'action va commander effectivement, et il est mis en jeu par l'impossibilité de contrôler votre environnement, d'agir sur votre environnement au mieux de votre intérêt. Il va commander tout le système endocrinien qui va commander, lui, et bloquer votre système immunitaire, parce que la cortisone, tout le monde le sait, depuis belle lurette, elle détruit votre système immunitaire. Donc, n'ayant plus de système immunitaire actif, S'il y a un microbe qui passe dans la région, bah, vous ferez une évolution infectieuse, une maladie infectieuse. S'il y a une cellule cancéreuse, il y en a tous les jours, qui naissent dans les organismes et qui, malgré les antioxydants que j'ai essayé d'introduire il y a quelques 40 ou 40 ans, oui, maintenant, malgré ça, il y en a quelques-unes qui, si vous avez un système immunitaire qui n'est pas suffisant, qui ne les reconnaît pas comme cellules non conformes, ne les attuera pas, vous ferez une évolution cancéreuse, pas un cancer au hasard. De même, la cortisone, tout le monde le sait, il y a belle lurette aussi, qu'on le sait. Elle retient de l'eau et des sels, mais comme elle est libérée en même temps que une neurohormone qu'on appelle la noradrénaline, qui fait une vasoconstriction, une diminution du calibre des vaisseaux, vous avez trop de flotte dans votre organisme, trop de sang, qui est la partie mobile de votre milieu intérieur, et vous avez un système vasculaire qui est insuffisant pour le contenir. Alors vous faites une hypertension. Alors avec hypertension, vous savez ce que c'est les hémorragies cérébrales, l'infarctus, etc. Tout ça, l'inhibition de l'action. Effectivement, on ne sait pas souvent comment. Alors il faudrait que je développe, et ça, vous voyez, nous en serions encore là demain matin, mais j'écris un certain nombre de livres où vous pourrez trouver ça si la question vous intéresse. Ne serait-ce que dans le dernier, quels sont les cadres dans lesquels on risque de se trouver en inhibition de l'action. Très rapidement, d'ailleurs, il y a un cadre qui est très, très freudien, dirais-je, très psychanalytique. Quand vous avez une pulsion à agir, et votre pulsion, elle agit pour que vous fassiez plaisir, bien sûr, pas pour vous faire mal, et puis que vous avez l'interdit, c'est-à-dire l'apprentissage par la mémoire de ce qu'il faut faire et pas faire, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est laid, si tu fais ça, tu seras récompensé, si tu fais ça, tu seras puni. Alors que si vous avez envie de faire, ça risque d'être puni. Et à tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse avancée, vous êtes en inhibition de l'action, parce que vous ne pouvez pas agir. Vous avez peur de la punition, et vous ne répondez pas à votre pulsion à l'action. De même, si vous avez un événement qui survient que vous n'avez jamais expérimenté, vous serez ce que j'appelle, vous pouvez être en déficit informationnel. C'est-à-dire que ne sachant pas s'il va être bon, bénéfique ou maléfique pour vous, vous ne pouvez pas agir encore. Vous ne savez pas comment agir. Vous pouvez agir à ce moment-là de façon maladroite. Donc vous êtes en inhibition de l'action. Et surtout, à notre époque où on est envahi par les médias qui vous apportent tous les jours des masses d'informations, quand vous avez la notion que je viens de vous développer, celle de niveau d'organisation, vous pouvez placer un événement qui est introduit dans votre système nerveux par la télévision, ou la radio, ou même les journaux, les médias. Vous pouvez le classer à un niveau d'organisation et voir quel est le niveau qu'il englobe, et ne pas faire d'erreur de jugement. Malheureusement, les hommes politiques, on les a jamais dit. Et pourtant, si, Rocard le sait, il me l'a même écrit quand j'ai publié Dieu ne joue pas à aider. Il m'a dit, tu sais, ta notion de niveau d'organisation, ce qu'il m'a fait comprendre, j'utilise tous les jours en politique. Bon. On ne peut pas tous les jours la rendre efficace, parce que la guerre du Golfe, par exemple, il était bien évident que c'était un sous-ensemble entre l'Irak et le Koweït, et que ce sous-ensemble ne pouvait exister et être résolu non pas au niveau du sous-ensemble, mais dans l'ensemble qui l'englobait, c'est-à-dire tout le Proche-Orient, mais que le Proche-Orient était lui-même englobé par un système avec la Russie qui s'effondrait, l'URSS à l'époque, et le monde occidental, et puis que finalement il y avait aussi à long terme et à peut-être pas tellement long terme, tout l'extrême-orient et tout le monde dit occidental qui allait être en opposition. Donc, raisonner sur un sous-ensemble, ça ne permet simplement qu'avec 250 000 morts iraniens, de redonner leur fierté nationale aux Américains. Vous avouerez quand même. Et alors, on vous a rabâché ça dans les journaux. Et ça, c'est la non-notion, l'ignorance d'une notion de niveau d'organisation. On ne peut pas traiter un problème, quel qu'il soit, familial, professionnel, à un seul niveau d'organisation. C'est bien ce qui rend, d'ailleurs, les choses difficiles. Parce que, pour arriver dans un système comme celui qui envahit la planète déjà depuis, d'ailleurs, 6 000 ans, Alors maintenant, c'est arrivé vraiment à un stade très évolué où tout n'est que compétition économique. Si vous n'entrez pas dans cette compétition, ben, les autres vous boufferont. Si vous avez une autre conception des relations humaines que celle qui est d'être le leader, l'entreprise, l'entreprise dynamique, etc., le tapis du coin, vous ne serez sûr n'être pas gagnant. Et si vous n'êtes tout, regardez, tout n'est que compétition. Chirac va sponsoriser la ville de Paris. Il faut rentrer en compétition avec les Italiens. Ce n'est que ça. Alors, on peut faire du sport. Je prends l'exemple du sport. On peut faire du sport sans entrer en compétition. C'est simplement le plaisir de faire du sport. J'ai écrit sur ces thèmes. J'écris actuellement 33 livres. Il y en a une bonne vingtaine qui sont des livres pour initier, si j'ose dire, des livres. Il y en avait un qui m'a montré Sabatier tout à l'heure, qui date de 65 et qui est la régulation métabolique. À l'époque, c'était déjà difficile à comprendre, ça le reste d'ailleurs. Mais le dernier que j'ai. Ils ont tous sorti ceux-là chez Masson. Je ne vous les conseille pas parce que le dernier, c'est par exemple, il a comme pour titre, l'année dernière, il a pour titre les récepteurs centraux et la transduction des signaux. Alors là, moi-même, parfois, quand je leur lis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Non, c'est très compliqué. Mais il y en a une bonne dizaine, donc une quinzaine même peut-être maintenant, une douzaine, que j'ai écrit pour mettre les idées en place. Et dans des disciplines que je ne trafique pas tous les jours, c'est-à-dire les disciplines humaines, qui m'ont fait pénétrer donc dans des disciplines qui sont les sciences humaines, avec toujours un peu d'inquiétude, parce que vous savez, si je n'avais pas le diplôme, et je l'ai su à l'époque, je vois Sabatier qui est là, et il a connu mon malheur entre 50 et 60, même plus tard, j'étais chirurgien des hôpitaux. Alors là, j'aurais pu continuer. J'ai même fait partie de membre de l'Association nationale de l'Académie de chirurgie. J'aurais pu continuer à enlever des utérus, des estomacs, des rectums, des vésicules. Personne ne m'a rien dit. J'avais le chemin pour le faire. Et puis, je me suis mêlé de faire de la physiologie. Ça ne m'a pas suffi, d'ailleurs. Ça ne me donnait pas toutes les explications. Pourquoi mes malades mouraient. Pas tous, hein, quand même, parce qu'il y avait quelques-uns qui survivaient. Et là, il n'y a rien d'extraordinaire. J'étais vexé. L'image idéale que je me faisais de moi-même et que j'essayais de projeter sur le public, quand j'avais un décès, c'était. Je sais bien que l'opération réussit toujours très bien. C'est les suites qui n'ont pas été bonnes. Bon. Et j'ai essayé justement de comprendre ce qu'était la maladie post-opératoire, le choc, le stress avec Célier ensuite, où je n'ai compris le stress d'ailleurs qu'il y a 20 ans. Je l'explique pourquoi dans ce dernier bouquin. Une vingtaine d'années seulement. Donc, pour essayer de maintenir l'image que je me faisais de moi-même, enfin plutôt favorable, sur piédestal, et ayant quelques échecs, j'essayais de sortir de ma discipline. Mais il n'y a rien de moins biochimiste, biologiste, physiologiste, pharmacologiste, à l'époque, que les chirurgiens. C'était la ligne d'incision et la façon dont... On enlevait le plus rapidement et le plus honnêtement du monde un organe. C'est la chirurgie d'exérèse. Alors, on dit, ce type est fou. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et finalement, les années ont passé, et ce que j'ai pas dit tellement de conneries dans ma vie, et tout ce que j'avais dit, et des sommes d'époque, quand je vois que dans la semaine de Suzette et la veillée des chaumières, actuellement, on parle des radicaux libres, j'en ai partout, hein, les radicaux libres. Mais figurez-vous, et ceux qui me connaissent, peut-être y en a-t-il en dehors de Sabatier, mais de 58 à 64, j'ai montré tout ce qu'on dit actuellement sur le danger des radicaux libres. J'ai même trouvé des molécules, j'ai inventé des molécules qui étaient des piégeurs de radicaux libres, ce qu'on appelle les scavengers maintenant, parce que c'est anglo-saxon. Alors, à l'époque, on a dit, que c'est que ça, des électrons célibataires. Mais ce type est fou, il n'est pas sérieux. Le laborie pas sérieux, ça s'est couru comme ça, d'année en année. Alors que maintenant, 20 ans après, on s'aperçoit que c'était peut-être pas sérieux, mais que c'était vrai. Et que tout ce que j'ai pu dire sur l'inflammation, les infarctus du myocarde, etc., radicaux libres, c'était exact. Et avec une expérimentation. Je pourrais vous en raconter. L'une est assez amusante, je ne raconte pas souvent. Et je vais terminer comme ça, d'ailleurs, parce que on pourra parler après. Il n'y a pas que moi qui peux parler. En 68, j'ai eu l'idée d'utiliser un acide aminé qui est la tyrosine, qui est à l'origine de médiateurs chimiques qui sont les catécholamines, dopamine et norépinéphrine. Et j'ai fait toute une expérimentation, et chose étonnante, j'ai découvert qu'elle n'était pas hypertensive, mais hypotensive, que, etc., etc. Je passe sur les détails. Nous avons publié tout ça, en français, malheureusement. Quoique non, en particulier sur l'action hypotensive, j'ai publié aux États-Unis. D'ailleurs, c'est la seule chose, comme c'était publié en anglais, qui a été ensuite, j'ai été signalé dans tous les travaux qui ont succédé comme initiateur. Mais en 75 environ, il y a un monsieur qui s'appelle Wurtmann et qui était professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology, et qui reprend mon travail que nous avons fait sur la tyrosine. Exactement la même chose, point de vue expérimental, et publié à tour de bras, sans jamais nous citer. Alors bon, moi, je prends quelques tirés à part, même publié en français, puis je lui envoie. Pas de réponse. Et continue à publier sans nous citer. Alors, un jour, beaucoup plus récemment, en 81 ou 82, un collaborateur qui parle l'anglais comme sa langue maternelle, Bel Carlo, se trouvait dans un congrès à Budapest, je crois. Hein? À Vienne, voilà. C'est ma femme qui est au courant de tout, ça, on ne peut rien lui cacher. Et il voit M. Wurtmann monter à la tribune et rouler des mécaniques en disant « La tyrosine, nous avons montré que… » etc. Alors, quand même, à la fin, il demande la parole dans un anglais parfait. Il dit à M. Wurtmann « Écoutez, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais j'ai l'impression que tout ce que vous avez dit… » D'abord, il avait dit 10 ans avant ou 7 ans avant. Le type ne s'est pas démonté. Il a dit « Mais je ne discute pas son antériorité. » Mais quand il l'a dit, personne ne pouvait le croire. Alors là, il faut avouer que c'est assez fort de café. Hein. Bon, quand c'était M. Wurtmann, le MIT, à ce moment-là, c'était sérieux. Bon. L'histoire n'est pas finie, presque finie. Mais 2 ou 3 ans après, le même Carlo se trouve dans un congrès à Bruxelles. Alors là, non, il est invité à dîner ou à déjeuner par une grosse firme allemande. Alors, il leur dit, qu'est-ce que vous faites actuellement, vous intéresse? Ah, les Allemands disent, bon, on s'intéresse. Tiens, c'est pas moi. Hein. On s'intéresse beaucoup, puis surtout que je peux, ça chauffe ce truc-là. On s'intéresse beaucoup à la tyrosine, disent-ils. Ah, dit Carlo. Il dit, oui, on va même sans doute la commercialiser. Ah, Carlo dit, mais comment pouvez-vous la commercialiser? C'est la Boric qui a tous les brevets. J'avais même le brevet américain, j'ai tous les brevets, j'avais. Ah, tu mets la Boric, c'est jamais intéressé à la tyrosine? Oh, Carlo dit, écoutez, quand même, alors quand je vais rentrer au labo, je vais vous envoyer tous les tirés à part, vous verrez que. Et les photographies, les photocopies des brevets. Ah, dit, mais comment vous pouvez. Alors, vous avez un. Ah, il dit, oui, nous, on travaille avec Wurtmann. Et alors, on a un brevet. On a un brevet pour. J'avais donné un certain nombre d'indications d'utilisation de la tyroïne. Mais je n'ai pas pensé au délirium tremens, l'encéphalopathie alcoolique. Et le Wurtmann avait pris un brevet sur l'utilisation de la pyrosine dans l'encéphalopathie alcoolique, leur filait aux Allemands, qui allaient commercialiser, ils n'ont pas quand même, là ils n'ont pas osé, qui allaient commercialiser la tyrosine avec ce brevet, et ensuite on montrait qu'elle était valable dans l'hypertension, dans la maladie de Parkinson, etc., etc., etc. Et le laboratoire dans lequel je travaille depuis 32 ans aurait été encore couillonné pour ce qui est des royalties. C'est ce qui est arrivé avec Gallo et Montagné. Pourquoi est-ce que Gallo a fraudé? Mais fraudé, tout le monde le sait. Toute la justice américaine s'en est mêlée uniquement parce qu'il y avait à gagner du fric avec les tests de reconnaissance du sida. Et je vous dis qu'il n'y a plus d'esprit scientifique, il n'y a plus rien à partir du moment où il y a compétition économique. Toutes les malhonnêtetés, tout peut être fait du moment qu'il s'agit de gagner de l'argent et d'imposer sa dominance par l'argent. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, Je dis souvent, c'est que nous, je ne crois pas à la pharmacologie. Et bien qu'on me sous-traite souvent de pharmacologie, je ne pense pas que la pharmacologie permette de l'évolution, favorise l'évolution humaine. Pour nous, la pharmacologie, c'est un outil. C'est-à-dire quand on a cru comprendre un mécanisme du vivant que les autres n'ont pas encore compris, ou qu'on en croit qu'ils n'ont pas encore compris, il est plus facile d'imaginer une molécule pour agir sur lui, de demander à l'organicien de la synthétiser, ils vous en synthétisent non pas une d'ailleurs, mais 10, fois plus, et de voir si elle agit comme on attend qu'elle agisse, donc si le mécanisme qu'on a cru comprendre est exact. Mais si elle ne fonctionne pas comme ça, d'ailleurs, ça nous mène sur d'autres pistes qui nous emmènent ailleurs et à d'autres découvertes. Donc pour nous, c'est un outil. Je vais donner un exemple amusant, d'ailleurs. Moi, je peux le dire, on prend le brevet ces jours-ci depuis 4 ou 5 ans. Non, depuis 10 ans, nous étudions la nicotine. Non pas parce que j'étais fumeur ou que je suis encore un peu fumeur. Enfin, j'étais fumeur et que je pense que la nicotine soit quelque chose de dangereux. La cigarette, oui, et les carbures, les goudrons qui sont dedans sûrement, mais la nicotine elle-même, je peux vous assurer que depuis 30 ou 40 ans que je la manipule au laboratoire, je sais que c'est une molécule extrêmement intéressante et nous avons des récepteurs nicotiniques dans le cerveau, c'est pas pour les chiens. Et d'autre part, actuellement, on commence à dire, en particulier aux États-Unis, que la nicotine empêche l'apparition des maladies d'Alzheimer, la sénescence cérébrale, que les premiers récepteurs cérébraux dont le nombre diminue chez les sénescents alzheimériens, ce sont les récepteurs nicotiniques, et qu'elle peut intervenir dans la maladie de Parkinson, etc., etc. Heureusement, là encore, on avait quelques 10 ans d'avance, c'est bien qu'on a inventé des molécules, mais dire, vous voyez, je vais faire de la molécule, si, bien sûr, vous en avez des comme ça, quoi, vous savez, c'est le Nicorette. Vous mastiquez cette chewing-gum, là, que vous mastiquez. Alors, nous avons inventé des molécules qui combinent une molécule qui est sortie de notre laboratoire déjà depuis pas mal d'années, depuis 1960, et qui a fait le tour du monde, d'ailleurs, qu'on appelle le gamma-hydroxybutyrate de sodium, et qui retient les catécholamines dans les neurones dopaminergiques en particulier, alors que la nicotine les fait sortir. Quand on... cette combinaison de ces deux molécules a donné naissance à une série de molécules, des nicotinomimétiques couplées à des GABAergiques, si vous voulez, qui sont extrêmement efficaces, expérimentalement, dans la mémoire, dans la dépression, dans etc., etc. Alors, c'est amusant de constater que, alors qu'il y a une campagne contre le tabac, bon, je reconnais que je ne conseillerais pas de fumer uniquement pour améliorer votre ventilation pulmonaire, non. Mais que la nicotine va devenir, dans les années qui viendront, et j'espère être un des promoteurs, dans les années qui viendront, la nicotine va être un médicament de premier choix. Mais la question n'est pas là. Les médicaments, on agit à un niveau d'organisation. Vous voyez ce que c'est maintenant, le niveau d'organisation. Surtout que ce niveau d'organisation rend service à l'industrie pharmaceutique et permet de faire du fric. Bon, moi, personnellement, si je pouvais travailler et avoir un appareillage comme celui que j'ai, qui vaut très cher, sans avoir à faire des médicaments, j'en serais très heureux, mais quand en 58 j'ai pris ce laboratoire, j'ai compris que ce qui m'intéressait, moi, c'est-à-dire la compréhension des phénomènes vivants, ça n'intéressait personne, mais que par contre j'étais dans une société de boutiquiers, de marchands, et que si je leur proposais des pilules, à ce moment ils seraient tout contents, ils me verseraient des royalties. Alors, des pilules, on en a trouvé plus que tout le monde, d'ailleurs. Il fallait, en général, c'était un peu trop précoce, vous voyez, et il a fallu ensuite les convaincre qu'elles pouvaient être intéressantes. Il y en a qui étaient beaucoup moins intéressantes et qui n'ont jamais vu le jour. Et pourtant... Bien. Alors, demandez pour mon laboratoire, je vous dis, personnellement, la pharmacologie et les drogues, je n'y crois pas spécialement, je crois beaucoup plus à une épidémiosociologie, c'est-à-dire à prévenir, à apprendre au plus grand nombre d'hommes possible comment fonctionne leur système nerveux, quels sont leurs jugements de valeur, de façon à ce que les rapports entre les hommes soient plus harmonieux. Et pour ce qui pourrait éviter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'inhibition de l'action. Donc toute la pathologie, à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de pharmacologie, c'est utopique ce que je raconte. Mais dans un certain sens, c'est exact. C'est-à-dire que si les relations humaines étaient plus harmonieuses, moins agressives, moins compétitives, il y aurait certainement besoin de médicaments pour soigner les gens. Les gens seraient beaucoup moins malades. Vous savez, quand tu vois, je l'ai dit ça depuis longtemps, quand on voit sur une tombe « bon fils, bon époux, bon père, bon citoyen, priez pour lui », le type, quand on prend son histoire, il avait tout pour être heureux. C'était un type, il était couvert d'honneur. D'ailleurs, il avait même eu la Légion d'honneur. La croix du mérite. Et puis, des temps d'autres, il avait un salaire, il avait une résidence secondaire en plus, vous voyez. Eh bien, il est mort d'infarctus à 45 ou 50 ans, parce qu'il était en compétition et qu'il n'était jamais satisfait de la. Et qu'à partir du moment où il y a les jeunes loups, vous savez, avec attaché caisse et puis le papillon, qui vous disent comment ça. Derrière vous, à dire quand est-ce que vous allez lâcher la pédale, si j'ose dire, à ce moment-là, vous n'êtes pas heureux, vous êtes en inhibition d'action encore, vous faites un infarctus, ou n'importe quoi autre chose, d'ailleurs. Mais à tel point que la question du sida, le microbe semble, d'ailleurs ça se discute maintenant, comment ça se discutait, enfin, le microbe en principe, il n'y en a pas qu'il provoque, mais s'accompagne d'une diminution, enfin, d'une inhibition du système immunitaire. Si vous dites aux gens qu'ils vont crever parce qu'on ne peut pas le soigner, comme on ne peut pas mieux provoquer une inhibition de l'action que dire qu'on va crever, que la mort, il n'y a rien à faire. Bon, et quand on vous dit qu'il n'y a rien à faire, vous êtes en pleine inhibition de l'action. Eh bien, vous faites le boulot du. Il n'y a même pas besoin du virus, là. Vous avez votre cortisone qui détruit votre système immunitaire, et alors là, à ce moment-là, c'est des quantités, je pense, que des nombreux séropositifs, si on leur donnait un peu d'espoir, si on leur disait, mais tout ça, on leur disait la vérité d'ailleurs, si vous craignez de claquer, vous allez claquer. Mais je vous dirais que c'est presque la méthode Coué, mais la méthode Coué n'était pas tellement idiote. Dire à des gens, vous allez claquer, c'est les faire claquer, ça c'est sûr. Donc, vous voyez comme la notion d'inhibition de l'action et la façon dont on peut contrôler son environnement par son comportement et ce que votre système nerveux vous a appris depuis la naissance. Bon, ça, c'est bien difficile à dire. S'il y a dans votre système nerveux, il n'y a que les psychanalystes, qui après 6 ans de canamé payable à chaque sortie, sont persuadés qu'ils vont remonter le vécu. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, mais de toute façon, si c'est un effet placebo, c'est pas négatif non plus. Le placebo, c'est l'effet qui peut agir dans l'inhibition de l'action, un peu avant les drogues. Donc, vous voyez, comme cette notion de niveau d'organisation, d'inhibition de l'action, ça entre dans des plans généraux dans lesquels il faut agir avec prudence et compréhension, ne pas se limiter à une vision parcellaire. Réductionniste, c'est le terme utilisé actuellement. Réductionniste, alors que tout le monde fait du réductionnisme. On m'accuse de réductionniste parce que je parle de biologie quand je traite de la pensée humaine ou de la sociologie ou de la psychologie. En fait, c'est les psychologues qui font du réductionnisme à la psychologie et les sociologues à la sociologie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un. Mais pour être réductionniste, il faut revenir à la molécule. Je me tiendrai à la molécule, je serai réductionniste, mais j'ai essayé justement de passer de la molécule jusqu'aux sociétés humaines. Je ne sais pas si j'y suis bien arrivé, peut-être maladroitement, mais enfin moi je me suis rendu plus heureux, et c'est le principal, parce que j'ai mieux compris mes contemporains, j'ai mieux vécu, et à 77 ans, mon Dieu, vraiment que je me casse la gueule dans les machins, là, dans les conférences à Nice, on arrive à se débrouiller, quoi. Il y a 4 ans, les Américains sont aperçus que ce cocktail lithique avait donné, il y a le Sabatier d'ailleurs, hélas, un éminent professeur d'anesthésiologie de Bordelais, il pourra vous le dire, on s'est aperçu que la neuroleptane analgésis avait pris son origine avec ce que j'ai appelé l'anesthésie potentialisée, les cocktails lytiques. Et il y a une association mondiale de neuroleptane analgésie qui a été créée, et on m'a écrit fort gentiment en me demandant d'être président d'honneur de cette association mondiale de neuroleptane analgésie. J'ai un beau parchemin, etc. Ce qui veut dire que quand même, la neuroleptane analgésie, c'est peut-être en France qu'on en fait le moins. Je ne suis plus anesthésiste, je n'ai jamais été. D'ailleurs, enfin, j'ai travaillé avec eux beaucoup, ma femme l'a été longtemps. Mais il semble qu'actuellement, on retourne au cyclopropane, pas au cyclopropane, hein, la lotane, etc. C'est plus simple, on met un masque. Pff, mais la neuroleptane analgésie, même dans les pays anglo-saxons, est devenue, où la lotane est née pourtant, est devenue quand même quelque chose qui continue à avoir de plus en plus d'adeptes et des radiations. Et bon. L'hibernation artificielle, dans le cocktail lytique, malheureusement, j'ai l'année dernière fait le discours d'ouverture d'un congrès à Montréal sur le stress. Le stress, vous voyez, comme. Il faudrait expliquer ce que c'est que le stress. Bon, le stress à l'approche de la mort. Et il y avait ensuite, il y a eu des quantités. Il y avait eu avant, d'ailleurs, des quantités de discours sur le cocktail lytique, l'euthanasie, cet affreux cocktail lytique qui portait la mort, etc. Alors j'ai forcé de leur expliquer que le cocktail lytique, et que j'étais d'abord fier de l'avoir inventé, que quand j'avais inventé, c'était pas pour tuer mes malades, c'était au contraire pour les protéger. Qu'ils protégeaient les malades que nous avons montés. D'ailleurs, ma femme a fait toute une expérimentation là-dessus. Parce que maintenant, c'est la morphine. Les anglo-saxons, ils ont découvert la morphine. Bon, morphine par voie buccale, en plus. Alors là, c'est une grande invention. Alors, les gens qui vont mourir, on peut leur donner de la morphine, mais surtout pas de cocktail lytique. Et même mon ami Schwarzenberg, l'autre jour, a parlé du cocktail lytique. Il faut que j'engueule, d'ailleurs, la prochaine fois que je le verrai. En prenant cette notion que cocktail lytique, c'est avec ça qu'on tue les gens. Or, c'est ce qui protège le mieux les gens. Seulement, effectivement, la digitale, vous savez, ça a sauvé des millions d'individus depuis qu'on l'a découvert et introduit en thérapeutique. Mais on sait très bien que si on la jette un peu vite, en quantité un peu importante, on se dit qu'ils sont clients, encore mieux qu'avec un cocktail lytique et moins agréablement. Bon. Alors, c'est la bêtise et l'ignorance des gens qui, dans bien des cas actuellement, surtout dans tout le snobisme actuel, je veux bien qu'on a raison de considérer le malade, le patient, comme on dit, enfin, le malade, c'est pas bien porté, le patient, comme un homme, et qui meurt dans la dignité. Je sais pas ce que c'est que la dignité du mourant, enfin bon, il faudrait quand même définir tous ces mots avec tout notre apprentissage culturel. Bon, ben, moi, je suis d'accord avec tout ça, qu'on soit gentil, chaleureux avec le mourant. J'espère qu'on le sera avec moi dans quelques instants ou dans quelques moments. Dans pas longtemps, quoi. Mais la connaissance n'a jamais été contre le contact chaleureux avec le mourant. Or, la connaissance, je souhaiterais que tous ces gens qui se donnent une très belle idée, une image idéale d'eux-mêmes, parce que ils tiennent la main du type qui est en train de claquer ou de la femme qui est en train de mourir. Ils élèvent leur âme, etc. Mais je voudrais bien qu'ils soient un peu plus pharmacologistes et qu'ils empêchent de souffrir correctement sans supprimer sa conscience et qu'ils lui permettent de considérer la mort autrement que la façon dont on lui fait aborder. L'hibernation artificielle, on avait parlé aussi. Les indications s'en sont rétrécies actuellement à la chirurgie cardiaque et certaines chirurgies cérébrales. Mais j'ai encore vu, il y a 2 ou 3 ans, chez Neveu, hein, encore tous les jours. Alors là, j'y suis allé parce que c'était une amie qu'on opérait par voie intracardiaque à cœur exsangue et arrêté pour enlever des valvules mitrales puis en mettre d'autres à la place. Ben, on l'a descendu à 27 degrés sous cocktail lytique et gamma wash. Hein. Et c'était pourtant à Paris, si étonnant que ça puisse paraître, c'était à l'AENEC. 27 degrés, 32 ou 33 minutes d'arrêt cardiaque. On a eu le truc sans se presser. Hein. on en remet d'autres à la place, on referme, on dit réchauffé, et le lendemain matin, j'ai été la voir dans son lit en train de prendre son petit déjeuner, qui est en parfait état, avec un arrêt cardiaque, une circulation intracorporelle, bien sûr, 27 degrés, mais une circulation intracorporelle qui n'est pas, généralement pas suffisante pour entretenir une circulation cérébrale suffisante quand ça dure aussi longtemps. Donc voilà, actuellement, quand on essaie de traiter un anesthésiste pourra préciser, c'est ce que j'ai est encore valable, quand on veut traiter un anévrisme, par exemple, cérébral, on sait que dès qu'on va décomprimer, ouvrir le crâne, il va péter, qu'il y aura une inondation sanguine extrêmement rapide et violente qui amènera à la mort. Il faut clamper les carotides pendant un certain temps. Et ben, au bout de 2 minutes, le cerveau, il est mort. Sous hibernation artificielle, on peut encore clamper, pas tellement longtemps, mais enfin, on peut clamper un certain temps de telle façon que on va aller mettre des petits clans sur les artères qui sont à l'origine de l'angiome, de l'anévrisme cérébral, et puis on referme ensuite et le malade n'est pas mort. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je sais, parce que actuellement je ne suis plus dans les salles d'opération, mais s'il y a des anesthésistes ici, notre ami Sabatier peut peut-être donner son idée là-dessus. Il vous répondra peut-être plus contemporaine.
Ah oui, excusez-moi, je tiens un petit pas. Je pense que ce que vous avez dit de tout à fait vrai tout à l'heure concerne l'origine de la neuroleptanalgésie. Analgésie. Il est évident que si cette technique sous laquelle certains d'ici font passer...
La neuroleptanalgésie a certainement été, pendant les années 50 et jusqu'à maintenant, une des techniques les plus utiles. Mais c'est vrai que c'est totalement les idées que vous avez lancées vers 1950 avec Pierre Huguenard qui ont fait le lit et qui ont permis à la neuroleptanalgésie d'exister. Lorsque vous avez dit on fait une anesthésie sans anesthésique, lorsque vous avez dit il faut empêcher la souffrance et mettre au repos le système neurovégétatif, c'est ce qui a permis de créer les techniques de neuroleptanalgésie actuelles. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et si pendant quelque temps, on a refusé un tout petit peu cette filiation qui venait directement de vous, eh bien actuellement, dans tous les bouquins, on dit, à partir de 1950, sur les idées de Laborie, il y a eu la création de cette technique. C'est tout à fait... Bien sûr, en ce qui concerne les techniques modernes concernant les anévrismes, etc., on a fait des progrès qui ont modifié un peu ce que vous pensiez tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la neurolepse, c'est évident. Moi, ce que j'avais à dire.
Respiratoire.
Oui, aussi.
Il y a ça quand même. Il n'y a pas que l'anesthésie. Alors non, et l'hibernation artificielle.
Oui, l'hibernation artificielle. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait clamper les carotides. Pendant très longtemps. Non, non, mais je vais donner quand même une idée parce que au centre Jean Abadie que beaucoup d'entre vous connaissent et à Bagatelle où Henri Pouyanne, le Pierre Lemand, etc. travaillaient, on avait l'habitude de faire des anévrismes au cours des années sous différentes techniques. Puis on a essayé l'hibernation artificielle, on a utilisé l'hypothermie, on a utilisé un tas de produits. Mais il s'est trouvé qu'un jour, et je raconte une anecdote qui pourra vous frapper, pendant un anévrisme intracrânien, la cure d'un anévrisme intracrânien, on n'arrivait pas, le chirurgien n'arrivait pas, vu la montée du sang dans le crâne, je me tourne vers Madame Laborie, qui est aussi anesthésiste et qui a travaillé en neurochirurgie pour la... prendre un témoin. Lorsque on a vu que vraiment ça ne pouvait pas marcher, le chirurgien m'a demandé, avec ses doigts qui sont là, que vous voyez, d'appuyer sur les deux carotides pendant le temps qu'il faudrait pour aveugler le saignement et lui permettre de mettre les clips l'anévrisme. Bien sûr, il existait deux petites artères que nous avons tous derrière, les vertébrales, c'est pas au chirurgien que vous êtes que je vais l'apprendre. Bien, j'ai fait cela avec ces doigts que vous voyez, avec les quatre doigts, pendant 45 minutes. Et 45 minutes que je certifie et que mes assistants ont vu naturellement, pendant 45 minutes, les deux carotides n'ont apporté absolument aucun sang au cerveau, ce qui a permis, bien sûr, au chirurgien de faire la cure d'anévrisme, de perdre l'éclipse, etc. Mais ce qui veut dire que si je n'avais pas eu à ce moment-là ce moment-là, c'était du nosinant. Mais enfin, nosinant, c'est une phénothiazine, c'est comme les vôtres, exactement. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu le soubassement de la noroleptanalgésie et de la phénothiazine à ce moment-là, naturellement, je n'aurais absolument pas. Il y avait de l'hypothermie, mais très légère par rapport à ce que vous avez cité tout à l'heure. Donc, le principe même de libération artificielle n'est pas encore conservé, pratiquement, on y reviendra peut-être, mais les idées sur lesquelles elle a été bâtie, la pharmacologie sur laquelle elle a été bâtie, les idées que vous avez développées, sont encore tout à fait applicables et appliquées.
Vous savez, le gamma OH, dont je parlais tout à l'heure, ce gamma hydroxyde de sodium, on considère actuellement que c'est le meilleur protecteur cérébral. Et on... pour le démontrer d'une autre façon, d'ailleurs.
C'est à propos de la théorie de l'information.
Oui.
Dans vos deux premiers livres, Biologie, structure et l'homme et la ville, vous enfoncez le clou en disant l'information n'est qu'information, elle n'est ni masse ni énergie. Puis, dans votre histoire de Dieu...
Dieu n'y joue pas avec des, oui.
Vous dites, vous commencez à douter à propos de l'énergie. Je vous dirais que j'ai été fort troublé lorsque j'ai mis le nez chez le profane. Mais en fait, je m'intéresse à cela. J'étais à Arcachon le 24 février 73 avec mon magnéto. Peut-être vous en souvenez. Eh bien, dans le dernier livre, c'est-à-dire Dieu, vous doutez sur l'histoire de l'énergie. Parce que lorsque il y a une dilution à 15 ou à 30 Hellman, il n'y a plus de masse, mais comment se fait-il que l'homéopathie réagit sur un chien? Il n'y a pas d'effet placebo à ce moment-là. Il y a donc l'information. Ça ne serait pas une espèce d'énergie que je ne sais pas. Je voudrais le savoir.
Bon, ben écoutez, je vais vous répondre. Cette question me plaît beaucoup, d'ailleurs. C'est pas moi qui ai dit que l'information n'est ni masse ni énergie, c'est Wiener. Mais je répétais parce que ça correspondait à ce que je voyais expérimentalement à l'époque. Ce qui montre bien qu'il ne faut jamais être trop péremptoire dans une expression d'une idée aussi importante que celle-là. Depuis, justement, en écrivant « Dieu ne joue pas au dé », j'en parlais tout à l'heure, je me suis penché vers la physique des particules. Et on découvre que, avec Dirac, d'ailleurs, c'est lui qui a été le premier à expliquer ça, c'est que pour chacun d'entre nous, le vide est vide. Il n'y a rien dedans. En fait, pour les physiciens actuellement, le vide est plein. Mais il est plein de... Et c'est Dirac qui l'a montré, et c'est maintenant, ça ne se discute pas, c'est démontré, même expérimentalement, je ne me souviens plus le nom du monsieur qui a été le premier à le démontrer expérimentalement. C'est plein de matière et d'antimatière, c'est-à-dire d'un électron et d'un positron. Et quand il y a positron et électron, il n'y a rien, parce qu'ils se détruisent. C'est plein de photons. Il sort des photons. Et photons, ça n'a pas de masse. Si bien que ce vide, que j'appelle les vides quantiques, est plein d'énergie. Et plein de quelque chose qui ne se pèse pas, mais qui est certainement porteur d'informations. Un photon, ça porte de l'information. Et j'ai d'ailleurs dit dans ce bouquin que vous rappelez, qui est 86, d'ailleurs, il n'est pas tellement vieux, qu'il est possible, et à ce moment-là, Benveniste, dont je vais parler dans un instant, n'avait pas encore travaillé, n'avait pas encore publié, il était possible qu'effectivement la biologie soit entièrement et grandement perdu son temps en s'occupant des molécules. Parce que les molécules, c'est bien joli, mais les physiciens sont affirmatifs. Cette table, nous-mêmes, ce que nous sommes, ce que nous sentons, ce que nous touchons, n'est qu'une toute petite, petite partie de ce que nous sommes. Nous sommes deux grands vides quantiques, et c'est pour ça que mon dernier bouquin, je termine par une conversation entre deux corps quantiques. Et à ce moment-là, si on s'occupe uniquement des molécules comme on l'a fait jusqu'ici, on était bien forcé de passer à ce niveau d'organisation. Il est possible que maintenant, et dans les décennies qui viennent, on s'occupe de ce vide quantique qui n'est pas massif, qui n'a pas de masse, qui ne se touche pas, mais qui peut être porteur d'informations. Et alors, là, vous dites l'homéopathie. Je ne suis pas homéopathe, j'ai un collaborateur qui est maintenant professeur à Montréal. Psychiatre, psychanalyste, et qui pendant 4 ans s'est recyclé chez nous à temps complet d'ailleurs. S'est recyclé, oui, cyclé plutôt, en biochimie, en neurophysiologie, en comportement, etc. Parce qu'il sentait bien que, bien qu'il soit resté psychiatre et psychanalyste, il sentait bien que ça ne suffisait pas, il fallait peut-être ajouter des petites choses, au lieu de répéter ce que le gourou avait dit, on pourrait peut-être aller un peu plus loin et voir comment ce système nerveux se comportait. Or, il était aussi, ça va bien avec son caractère, il était aussi très fervent d'homéopathie. Il a même écrit un bouquin, il était au laboratoire, il a écrit un bouquin d'homéopathie qu'il a signé sous un autre nom que le sien, et on a mis en quatrième de couverture, il ne cite pas son nom pour ne pas nuire à la réputation du laboratoire, c'était le nôtre, dans lequel il travaille. Or, je ne peux pas avoir d'opinion sur l'homéopathie, puisque je ne suis pas homéopathe. Si, j'en ai une toute petite, malheureusement, et défectueuse, parce que j'ai eu quelques petits ennuis il y a quelques mois. Et Muyard, justement, ce psychiatre psychanalyste, était à Paris. On m'avait foutu de la cortisone. Alors là, je vais vous dire que c'est pas cochon. Je me suis dit, mais ça m'a foutu, parce que la cortisone, c'est bien gentil. J'avais un système immunitaire qui était intersincidal, il est trop actif. Alors là, je me suis trouvé tout de suite beaucoup mieux. Mais la cortisone, ça fait sortir le calcium des os. Alors j'ai fait une ostéoporose là, puis j'ai pété une vertèbre, c'était pas la lombaire, là c'était une dorsale, vous voyez le genre, j'ai pas de veine avec une cortisone vertébrale. Et Muyard m'a dit, écoute, arrête ta cortisone, c'est le premier à dire que c'est une saloperie, que ça... Je te saignais à l'homéopathie, il m'a foutu un thérapeutique homéopathique, alors là ça a été catastrophique, j'allais de mal en pis, je suis revenu quand même ensuite à l'allopathie, en allant plus doucement et m'en mettant entre les mains de... camarade, collègue qui m'a traité allopathiquement. Donc, personnellement, je n'ai pas d'opinion. Mais j'ai reçu encore avant-hier une lettre charmante de Benveniste et avec le résumé, enfin, un dossier sur ses derniers travaux. Et je dis deux mots si vous n'êtes pas au courant de l'histoire de Benveniste. Benveniste est un monsieur qui est un grand savant, il a beau être mon ami, qui a découvert le PAF, Patent Aggregating Factor, et qui avait jusqu'ici était cité partout dans toutes les revues américaines, il était très bien considéré par les anglo-saxons. Et puis, un beau jour, il a eu l'idée de... Il y a des anticorps, si vous voulez, les IgE, qui, lorsqu'ils sont en contact de certaines cellules sanguines, font sortir de ces cellules sanguines de l'histamine. Et l'histamine, c'est ce qui fout les crises. C'est la base de l'anaphylaxie, si on veut, pour être plus simple. Et il a fait des dilutions de ces IgE. Ah, je ne sais plus quelle dilution. Il y a manifestement et mathématiquement et physiquement aussi, il ne pouvait plus y avoir une seule molécule de cette IG dans l'eau qu'il manipulait. Et lorsqu'il l'a mis au contact de ses cellules sanguines, elles ont libéré leurs histamines comme s'il y avait eu dans l'eau l'IG en concentration... allopathique. Alors il a parlé de la mémoire de l'eau. Ça fait beaucoup de bruit à l'époque, parlé de la télévision, etc. Et il a réussi. Alors il a demandé quand même, il sentait bien que c'était un peu dangereux de s'embarquer sur ce terrain. Il a demandé à un laboratoire de Jérusalem, à un laboratoire de Milan et à un laboratoire de Montréal de refaire avec le même protocole la même expérimentation. Ils ont tombé sur les mêmes résultats. Alors, il a publié avec tout le monde, il a publié dans le journal Nature, alors là, en anglais. Et il se trouve que Nature a accepté cet article et l'a publié. Ah oui, mais il y a un tel rush de contestataires, de contestations, qu'à ce moment-là, il n'est pas possible que Nature se permette de publier des travaux aussi imbéciles, aussi peu normaux, enfin aussi... romancer que ce truc. Alors ils ont envoyé, Nature a envoyé dans le laboratoire de Benveniste une équipe de gens pour contrôler. Et là-dedans, il y avait un, en particulier un gars qui était spécialisé dans la découverte des techniques des précipitateurs. Et c'est lui qui a montré qu'Henri Geller ne tordait pas les clés, etc. Bon. Et puis d'autres gens, Maddox, qui est le directeur de collection de Nature, sont venus, et le pauvre, avec une telle suspicion, une telle haine dans leur comportement, hein, que le pauvre Benveniste n'a pas pu reproduire dans 100% des cas. Il a reproduit son expérimentation. Alors les autres ont dit, bon, bah, c'est farfelu, c'est pas vrai, il a trompé son monde, c'est une fraude scientifique, etc. Bon, bien embêté quand même, parce qu'il y avait trois autres laboratoires qui avaient été d'accord. Alors on a dit qu'il avait été trompé, que bon. Mais, alors on a voulu que, en France, on a voulu que Benveniste abandonne la direction de sa machine de l'INSERM, parce qu'il est directeur d'une machine d'une laboratoire de l'INSERM. Puis finalement, on l'a conservé quand même, et il ne s'est pas décontenancé, il a continué à travailler. Et maintenant, il a une série de travaux qui démontrent qu'effectivement, alors qu'il n'y a plus une seule molécule dans le liquide qu'il utilise, il a une action extrêmement efficace, même actuellement sur des cœurs isolés. Puisque dans sa dernière, il me dit, qu'est-ce que tu viens ? Je jure, viens voir un cœur isolé de cobaye, dont l'activité physiologique est complètement transformée avec une solution qui ne contient plus une seule molécule d'histamine. Actuellement, j'irai quand j'aurai le temps, mais enfin, j'irai. Mais ce que je veux dire, c'est que il est sans doute tombé sur une découverte fondamentale. Il aura sans doute été le premier à montrer que la physiologie les mécanismes du vivant ne sont pas entièrement liés simplement aux molécules, mais à des champs électromagnétiques. Il y avait Sheldrake, d'ailleurs, en Angleterre, qui avait parlé de champs morphogénétiques, etc. Ça semble toujours un peu pervers quand on parle de champs. Parce que, et ça me gênait, moi, quand j'étais jeune, au PCN ou ailleurs, d'ailleurs, les champs, moi, ça veut rien dire, un champ. Qu'est-ce que c'est qu'un champ ? On en voit les effets, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors que maintenant, avec ce que commence à nous dire la physique quantique en particulier, on se rend compte que les champs, c'est l'énergie qui se promène et qui peut être détachée, conserver une information que les molécules lui auront donnée. Voilà. Donc, ça rend d'ailleurs, effectivement, ça rend une certaine valeur aux techniques homéopathiques. Et ce n'est pas parce que ça foirait sur moi que c'est faux. Et d'autre part, ça donne sans doute toute une orientation nouvelle à la biologie de demain. Je voudrais savoir si j'ai un vieux ami, camarade d'école, qui est ici, qui s'appelle Lorrain. C'est toi ?
Ouais.
Je ne vois pas, là. C'est un camarade d'école et de notre promotion, on n'est plus très nombreux. Hein, ça commence à s'amenuiser. Bon, voilà.